serai-je un jour jugé pour tout ce que j'ai fait ? Alors, je vais commencer par une petite histoire. Je ne sais pas si elle est très spirituelle, mais en tout cas, ce sera pour illustrer un petit peu ce que je vais dire. Un jour, je vais mourir et j'irai au ciel, puisque je suis enfant de Dieu, et donc j'ai une belle robe blanche. J'ai des cheveux, parce que moi au ciel, j'aurai des cheveux. Je vais les récupérer. Et je rencontre un ange qui me dit « Demain matin, tu es convoqué au tribunal de Christ à 9h. » Mais avant, tu passes aux archives célestes qui se trouvent juste à droite du tribunal de Christ. Dans un matin, je me rends là-bas aux archives célestes, je frappe. Un ange me reçoit, il me reconnaît. Bonjour Stéphane. Il dit, je vais chercher ton dossier. Il part, il revient sur un petit chariot, deux énormes classeurs. Et l'ange me dit, bon, il y a un petit peu de retard, donc on a un peu de temps, on va jeter un petit coup d'œil. Moi je lui dis, oh là, c'est perso, ce qu'il y a dedans, peut-être pas regarder. Et l'ange me dit, mais ici il n'y a rien de perso, tout est écrit, même tes pensées les plus secrètes. Même ce que tu n'as jamais dit à personne, même ce que ta femme ne sait pas, tout est là. Et moi je lui dis, bah justement, on va certainement pas regarder. Parce que personne ne sait. Et l'ange me dit, on a un petit peu le temps. Je vais ouvrir une page au hasard. Il ouvre une page, il pose sa main angélique, pouf. Il dit, tiens, je vais te parler du 1er décembre 2013. T'as donné un message à l'église de Chartres. Et l'ange me dit, c'est une super église. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu fidèles. Ils sont bien au courant, l'ange, ils savent bien. L'ange me dit, tiens, en parlant de pensées secrètes, je vois que en montant sur l'estrade, tu as eu deux pensées. La première pensée, c'est que tu avais la crainte de tordre la parole de Dieu. Il dit, c'est bien, tu as raison, c'est une sainte pensée d'avoir eu cette pensée. Mais je dis, en même temps, je voyais qu'il y avait un peu d'orgueil dans ton cœur. L'orgueil d'être devant et de prêcher. Ça, c'est déjà moins glorieux. Et moi, je lui dis, mais c'était pas ça, tu dois te tromper. Et non, je me dis, mais tu sais, entre ta parole et les archives célestes, je crois que le maître va croire d'abord les archives célestes. Et là, je me dis, mais tiens, je vois d'ailleurs qu'après, tu as fait un sketch sur nous, les archives célestes. Ça, c'est pas très cool. Pas sûr que le maître va apprécier. Donc moi, je lui dis, mais tu sais, j'ai fait ça pour rigoler. Je savais pas que vous existiez d'ailleurs. Alors. Et là, je me dis, écoute, tu verras ça avec le maître. Et là, juste sur la droite, une grande porte s'ouvre. La porte du tribunal de Christ. Une lumière éblouissante. Et je me suis réveillé. C'était un rêve, peut-être pas très spirituel d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il faut garder ça de mon message, ça vous pouvez l'oublier, c'était juste pour stimuler votre réflexion. Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est est-ce qu'un jour je serai jugé ? Dieu comme juge, c'est pas très vendeur dans la période de Noël, mais c'est peut-être vrai quand même. Existe-t-il un tribunal de Christ comme j'en ai parlé ? Est-ce que tous les hommes seront jugés ? Est-ce que les enfants de Dieu seront jugés ? Eh bien, c'est ça qu'on va regarder. On va commencer par, si tu peux cliquer, un point fondamental qu'on trouve dans toute la parole, c'est que Dieu est le juge des œuvres de chacun, de chaque homme. Et j'ai pris trois versets, un dans l'Exode, lorsque Dieu parle à Moïse, un à la fin de l'Ancien Testament et un troisième dans l'Épître aux Romains. Et cette pensée, elle est constante dans toute la parole. J'en ai cité trois, mais ils sont très nombreux. Et on va les lire. Le premier, c'est donc Dieu qui parle à Moïse. Je ne sais pas bien comment faire avec ce truc-là. Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit « Et l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. On va tirer deux petits commentaires là, juste le fait de conserver son amour, le fait de ne pas tenir le coupable pour innocent et de punir l'iniquité. Deuxième passage en Jérémie. L'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Donc là, c'est assez explicite. Et puis dans l'Épître aux Romains, on retrouve la même pensée. Et là, l'apôtre Paul s'adresse à quelqu'un qui se croit juste. Mais toi, par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissant à l'injustice. Et un peu plus loin, au verset 16, il est dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Je pense que c'est d'ailleurs une pensée que beaucoup ont, c'est qu'un jour on aura à rendre des comptes. Si tu veux cliquer, juste quelques rapides pensées sur la notion de Dieu qui est un juste juge. Elle est d'abord basée sur la responsabilité. Je suis responsable de mes actes, Dieu me tient pour responsable. Parfois on pense que quand on est responsable, on fait ce qu'on veut. Responsable veut dire que je rends des comptes, j'ai des comptes à rendre. Étymologiquement, c'est ça, j'ai des comptes à rendre. Toute justice, je voulais appeler Charlotte cette semaine pour parler de la justice, du droit, mais j'ai pas eu le temps. Mais ça se base sur un référentiel. Dans le droit, il y a des codes, code civil, le code pénal, il y a un référentiel pour Dieu. C'est lui-même, c'est sa sainteté. Tous les actes, bons comme mauvais, et on le voit dans l'Épître aux Romains, seront jugés. Tous. Il y a un principe d'équité, c'est que tous les actes doivent être jugés. On ne peut pas être coupable et être considéré comme innocent. Et puis un principe de proportionnalité qu'on ne voit pas dans les textes qu'on a lus mais qu'on peut trouver ailleurs, c'est qu'il y a une graduation entre l'acte et la rétribution, la récompense ou la punition, c'est proportionnel. Et puis enfin, cette justice de Dieu, ou ce jugement, il s'exerce parfois de manière immédiate, et on voit dans l'Ancien Testament que parfois Dieu intervient. Il intervient avec le déluge, il intervient sur Sodome et Gomorre, il vient juger immédiatement les actes d'un peuple. Il intervient en déportant le peuple à Babylone, par exemple. Dans les évangiles, on voit que Dieu intervient, par exemple, de manière immédiate. On voit qu'Ananias et Saphira, Dieu intervient immédiatement en jugement. Mais la plupart du temps, en tout cas le cas général, à part ces exceptions, enfin, pas exceptions, en tout cas, à part ces manifestations immédiates de jugement, le principal temps de jugement, c'est le jugement final lorsque Dieu va rendre jugement à la fin des temps. J'ai juste placé ce verset d'Actes 17, autre verset des Actes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui est donc cet homme qu'il a désigné en le ressuscitant des morts et qui va juger, c'est donc Jésus-Christ, c'est par lui qu'il fera ce jugement. Jusqu'à là, ce n'est pas des bonnes nouvelles tout ça quand même. Hein. Mais ça me semblait important de rappeler cet élément fondamental que Dieu jugera l'œuvre de chacun. Si tu veux cliquer. Mais on va revenir un peu au verset qu'a lu Inam tout à l'heure. Jean 3,16, que vous ne connaissez par cœur, on va juste prolonger un tout petit peu en lisant les versets 17 et 18 pour avoir une vue globale. Donc Jean 3,16, vous le connaissez par cœur, j'espère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. En tout cas pas dans sa première venue. Dans sa première venue, il est venu pour sauver, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et un tout petit peu plus loin, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Noël, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est un temps de joie. Mais juste avant qu'il y ait une bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait une très mauvaise avant. C'est que Dieu est un juste juge et qu'il va me demander des comptes de tous mes actes et de mes péchés. Je suis par avance condamné. Donc super, il y a une extraordinaire bonne nouvelle, mais avant il y a une mauvaise, une très mauvaise nouvelle. Et donc, j'allais dire que Dieu a un problème, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Dieu a un dilemme, c'est que Dieu vous aime, et Dieu m'a aimé, immensément. Et donc, il désire que je passe l'éternité avec lui. Le problème, c'est que entre les mois, il y a mon péché. Et Dieu est juste. Il est le juste juge, et je voudrais rester sur ce point-là, c'est que il ne peut pas simplement dire « Stéphane, j'oublie ça, je te pardonne, on n'en parle plus. » J'ai souligné sa justice, il faut que la justice de Dieu passe et que mon péché soit puni. Et donc il doit trouver une solution à ça. Et c'est ça que je veux souligner un petit peu, si tu peux mettre le transparent suivant. Je voulais souligner une expression qu'on trouve en Romains 3. C'est cette expression, mais on va déjà lire le verset. Romains 3, 23. « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » C'est toute la bonne nouvelle. « Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. » Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Cette expression que je voulais vous garder, être juste tout en justifiant. Si Dieu me déclare juste simplement, sans le sacrifice de Christ, il ne serait pas juste. Il est parfaitement juste. Et donc, chaque péché, chacun de mes péchés mérite condamnation et jugement. Alors, pour qu'il soit parfaitement juste, Christ est là. Et donc, à la croix, vous avez ce sommet de la grâce de Dieu, de son amour, et en même temps, de sa justice. Si tu veux... c'est pas très visible... Je fais un petit dessin. Ma tête, j'ai plein de schémas dans mon petit dessin. C'est pas très visible. Ouais, peu importe. Je vais passer rapidement. À gauche, vous avez quelqu'un qui ne croit pas. Et donc, j'ai dessiné la colère de Dieu. Alors, c'est pas facile de dessiner la colère de Dieu comme une espèce de flèche qui descend du ciel. Pas très. Mais pour celui qui croit, la colère de Dieu va se détourner à la croix. Sur Jésus-Christ, parce qu'il a pris mon péché, et chacun de mes péchés sera payé par Jésus-Christ. A été payé. Et je voudrais prendre un instant pour vraiment mettre devant le choix de chacun. Si quelqu'un n'a pas fait ce choix, si quelqu'un n'est pas sûr d'aller au ciel, et de passer l'éternité avec Dieu, de réfléchir sur ce message. Ce ce grand message de l'évangile d'amour. Dieu vous aime, mais Dieu est juste. Et donc, il va avoir ce projet extraordinaire de demander à son Fils de venir sur terre, de prendre votre péché, et le juste juge va déverser sa colère sur lui à votre place. Et vous, vous êtes accueillis pour l'éternité dans les bras du Père. Il y a de quoi adorer pour l'éternité, et c'est ce qu'on fera durant l'éternité en adorant. Et si vous n'avez pas fait ce choix, faites-le. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et Clément nous a partagé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le sacrifice pour le péché dans le Lévitique, où on voyait que la personne posait ses mains sur l'agneau ou sur l'animal pour confesser sur celui-ci ses péchés et ce transfert de mes péchés sur Christ. Alors pour revenir à mon illustration de départ, qui n'était pas très spirituelle, et comme on l'a vu dans ces versets, moi et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, je ne serai pas jugé. Je ne serai pas jugé. Néanmoins, y a-t-il quand même un tribunal de Christ ? On trouve deux passages dans la Bible qui nous parlent d'un tribunal de Christ ou d'un tribunal de Dieu. Et ces deux passages sont adressés à des enfants de Dieu. Ce n'est pas une vision générale pour tous les hommes, c'est réellement quelque chose qui s'adresse à des croyants. On va en lire un seul. Le deuxième se trouve en 2 Corinthiens 5, le premier c'est en Romains 14. Qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Et là, on parle bien des croyants. Deuxième point, quand est-ce que ça va se passer ? Là aussi, il y a deux versets qui nous parlent de ça. 1 Corinthiens 4 et Apocalypse 22. 1 Corinthiens 4 qui nous dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, et chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. » Donc, à son retour, dans les temps futurs, on sera amené à être, en tout cas, à vivre ce tribunal de Christ où il va, dans le premier passage, nous comparaîtrons. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce tribunal ? Il ne s'agit pas de mon salut, je sais que je suis sauvé. Si Dieu veut cliquer, excuse-moi, ouais, c'est l'autre. Je vais cliquer. On va passer un peu de temps sur ce passage-là, 1 Corinthiens 3, verset 9, qui nous parle de la manière dont Dieu va juger nos actes. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 9, je vais faire comme ça, moi, ça marche là, ça. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est Paul qui parle. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la matière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Là, il nous est parlé de construire avec un certain nombre d'éléments, de l'or, de l'argent, du bois, du chaume. Et l'épreuve de Cette construction, avec différents matériaux, se fait par le feu. Et ce qui n'a pas de valeur est détruit par le feu. Ce qui a de la valeur est conservé. Et ce qui est conservé amène, ce qu'il est dit, une récompense. Donc dans ce tribunal, on ne récompense pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est mal a déjà été traité. C'est Christ qui l'a porté. Et après, dans ce que dans ma vie d'enfant de Dieu, je vais avoir fait, eh ben, je ne sais pas s'il y a des archives célestes, comme je l'ai dit, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, en fonction de tout ce que j'aurais pu faire, Dieu va faire le tri et ne garde que ce qui est à son honneur, que ce qui était à sa gloire. Et donc, en fonction de ce que j'aurais fait, il promet une récompense. Il cite ici un cas extrême, celui où quelque part il n'y a que des éléments faits avec du bois, du chaume, et que tout soit brûlé. Rien qui soit à l'honneur de Dieu, il est dit qu'il sera sauvé, il est quand même sauvé. Mais, comme à travers le feu, il ne reste rien. On pourrait prendre l'exemple du brigand sur la croix, qui a son actif, pas grand-chose de positif, si ce n'est la reconnaissance du Fils de Dieu et sa foi, il est sauvé. Alors, quels sont ces matériaux? Puisque là, c'est très imagé, on parle d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois, de chaume. Quels sont ces matériaux qui ont de la valeur pour Dieu? Selon vous. Tout ce qu'on fait pour Dieu. L'amour. Vous avez raison. Si tu veux cliquer, j'ai juste. En fait, il n'y a pas de liste exhaustive. Par contre, dans la parole, il y a un certain nombre de versets qui donnent des exemples. C'est juste des exemples et c'est nullement exhaustif. Alors, on ne va pas tous les lire parce que ce sera un tout petit peu trop long. On va peut-être en lire un ou deux quand même. Pour montrer des petites choses, Matthieu 10, verset 39. J'aime bien ce passage, moi, il me plaît bien celui-là. Parce que c'est une toute petite chose. En fait, c'est pas 39, c'est. On va dire au verset 40, Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc c'est ces toutes petites choses, tout ce bien qu'on peut faire par amour. On va peut-être lire Matthieu 5, un autre exemple. Matthieu 5 au verset 12. On va commencer par le verset 11, sinon ce sera... On va commencer au verset 10, ce sera plus juste. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pour nos frères et sœurs qui sont particulièrement persécutés, et il y en a dans ce monde, Dieu garde et prépare une récompense particulière. va pas le dire, mais pour les anciens qui sont particulièrement dévoués, en tout cas pour les anciens, il est promis une récompense particulière. En Luc 19, avec la parabole des mines, Dieu met en avant la fidélité, lui être fidèle. Et je vais peut-être juste lire, parce qu'on pourrait la lire en entier, mais je voudrais juste lire la fin, parce qu'il y a une expression. Toc, 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 toc. Je vais juste lire le verset. C'est donc l'histoire d'un roi, d'un homme de haute naissance qui s'en va et qui laisse donc une partie de ses biens à ses serviteurs et en leur demandant de le faire fructifier. Et verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement sur 10 villes. Dieu honore la fidélité. Et j'aime bien cette expression, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement. Nous sommes appelés à être fidèles et Dieu est honoré par notre fidélité. On ne l'a pas lu, mais vous avez la parole des mines ou des talents. Et on voit que dans cette parabole, Dieu ne donne pas la même chose à chacun. Certains reçoivent 1, d'autres 5, d'autres 10. Et on n'a pas reçu les mêmes dons. Et Dieu ne nous a pas placés dans les mêmes circonstances. Et donc Dieu attend des choses différentes de nous. Et on veut parfois se comparer parce que l'un fait ça et l'autre fait ça. Et on est tout le temps en train de se bagarrer comme des enfants, on est des enfants de Dieu, mais comme des enfants qui se bagarrent en se comparant. Dieu a donné des dons différents à chacun et que ce que Dieu demande, c'est être fidèle par rapport à ce qu'il nous a donné. Alors, quelles vont être ses récompenses, puisqu'on a vu en fonction de la fidélité, en fonction du bien qu'on peut faire, de l'amour qu'on donne, de l'endurance à l'épreuve, Dieu promet des récompenses. C'est quoi les récompenses? Non, 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 tu ne montes pas. J'ai fait travailler un petit peu avant. Responsabilité au ciel, ouais. Comme il est dit, le gouvernement sur 10 000. Quoi d'autre? Ah bon, on va passer alors au transparent. La première chose, et on le voit dans Luc 19, c'est la louange. C'est que le maître va dire, c'est bien, fidèle serviteur. C'est déjà la première chose. C'est le maître qui remercie pour ce qui a été fait en disant que c'est bien. Il est parlé plusieurs endroits de couronne. Alors, très honnêtement, je n'ai pas creusé le sujet. Je ne sais pas si certains, les anciens, ont des vues plus claires là-dessus. Mais il est parlé de couronne. Est-ce des couronnes physiques? Est-ce des couronnes quelque chose de spirituel? Je ne sais absolument pas dire. Voilà. Mais il est parlé de couronne. Couronne de gloire, couronne de vie. On peut peut-être juste lire 1 Corinthiens 9, par exemple, on peut en lire juste. Un Corinthiens 9 et au verset 25. C'est le passage où, en fait, Paul prend le parallèle avec quelqu'un qui court dans le stade, un sportif qui s'entraîne. Verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et le font afin d'obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Voilà. Et puis, comme Étienne le disait, il est dit que, ou on le voit aussi en 2 Timothée 2, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui, le fait que Dieu, dans les temps futurs, nous associera à son règne en fonction de notre fidélité. Alors, je voulais terminer avec 2 petites remarques. Et ça, on va le lire. Luc 17, c'est que Dieu promet des récompenses à ses enfants et ses serviteurs fidèles qui l'honorent par leur marche. Luc 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela toi tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Même si Dieu nous promet des récompenses, quelque part il ne nous doit rien. Nous faisons simplement ce qu'il nous est demandé, nous sommes des serviteurs, il nous a acquis à la croix et... Comment dire, voilà, et juste... À faire. Le mot inutile pour moi est une traduction un peu difficile. On fait simplement ce qu'on doit faire, c'est tout. Et donc pas de gloire à avoir là-dessus. Est-ce que c'est le moteur de mon service ? Est-ce que je vais servir mon Dieu parce qu'il me promet une récompense ? On va peut-être faire débat. D'ailleurs, débat, oui ou non ? Ah ! On va faire un vote à Malvé, oui ou non ? Ah ah ! Vous avez les deux raisons, tous raisons. La première chose pour moi, c'est que on le sert parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a acquis et qu'on lui appartient complètement. Mon service n'est que la conséquence de l'amour que j'ai pour lui, qui est le juste retour de son amour pour moi. Mais quand même, si vous lisez, vous trouverez en tout cas un certain nombre de versets où l'apôtre Paul, il va encourager à servir en disant « vous aurez une récompense ». Alors c'est peut-être pas la première des raisons. La première des raisons, c'est son amour, c'est que je l'aime et que je veux le servir. Mais quand même, Paul encourage plusieurs fois, on trouve ces versets qui veut vraiment nous encourager. Un jour, on sera face à notre maître, et je préfère qu'il me dise « c'est bien, fidèle serviteur ». Voilà, ça reste quand même un encouragement. Si tu peux cliquer. En conclusion, je voulais résumer avec 4 idées fortes. La première, c'est que on l'a vu, c'est pas populaire, mais c'est biblique. Dieu est le juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres. Et ça, c'est plutôt une drôlement mauvaise nouvelle. Mais il y a une très bonne nouvelle. C'est ce qui se passe à partir de Noël et c'est la croix. C'est que notre Dieu est juste. Et il a ce plan merveilleux de détourner sa colère sur Christ parce qu'il a pris mes péchés. Et je voulais souligner le fait qu'il est juste tout en justifiant le pécheur. À cause de Christ, je suis juste, donc je ne viens pas en jugement. Tous mes péchés, ils ont été payés par Christ. Mais un jour, je serai face à mon Dieu et je pourrai... Enfin, en tout cas, il va regarder ma vie et dans sa grâce, il ne gardera que ce qui est à son honneur. J'espère qu'il y en aura beaucoup. J'espère que vous, vous travaillerez avec zèle pour qu'il y en ait beaucoup à son honneur. Et donc, dans sa grâce, dans son amour, il va donner des récompenses. Et ma conclusion, c'est qu'on soit vraiment des serviteurs zélés, fidèles, parce qu'il nous a aimés. Et que ça nous... comment dire ? Le fait d'envisager une récompense, ça redouble notre ardeur et notre zèle pour lui. Je termine en priant. Père, on veut d'abord te louer, t'adorer pour ce sacrifice qui a, dans ta grande justice, permis que nous soyons complètement lavés, justifiés. Nous voulons, Père, t'adorer pour un si grand salut. Et nous voulons adorer Jésus-Christ qui a subi cette colère à ma place. Merci parce que je n'ai plus de crainte maintenant. Merci parce que tu m'accueilles pour l'éternité. Seigneur, je veux et nous voulons te servir, t'être fidèle, parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que dans ta grâce, dans ton amour, tu nous promets aussi des récompenses. Seigneur, nous voulons t'être fidèles parce que nous t'aimons. Amen. Amen.